France Culture.
Si nous restons en vie, j'essaierai pour la première fois de planter une tige dans un champ, épargné par les mines. Planter avec mes mains d'habitante des villes, qui n'a vu ce que cache l'asphalte qu'avec l'arrivée de la guerre. Si nous restons en vie, nous habiterons la terre où chaque respiration donnée nous ramène à tout ce qui a été éprouvé, invisible et violent.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux horizons de liberté aujourd'hui dans votre book club et deux recueils de poèmes. D'un côté, des vers écrits depuis les tranchées ukrainiennes et ce n'est pas une façon de parler. La perte des amis, la perte d'un amour, la lumière que l'on guette et imagine tous les jours pour l'après. De l'autre côté, l'expérience de l'exil et la résistance poétique politique pour une femme contrainte de fuir le Burundi. L'écriture alors comme possibilité de se relier à des figures martyres de ce pays où le régime autoritaire muselle et violente notamment la voix des femmes. Les poétesses Yarina Tchornouz et Ketini Viabandi sont les invités de votre book club pour leur recueil tout récemment paru. Ensuite, et comme chaque mardi, on retrouve Mathilde Wagman qui nous parle littérature jeunesse aujourd'hui. Elle évoque l'inépuisable imaginaire des contes de fées avec un album qui s'en saisit avec grâce. Et en fin d'émission, on joue avec vous au grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le book club. Bonjour Yarina Tchornouz. Votre recueil « C'est ainsi que nous demeurons libres » apparaît aux éditions du Tripode. Dans une traduction signée vers le français d'Ella Yevtushenko et Frédéric Martin, soyez la bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir. La personne qui se penche à votre oreille pour chuchoter la traduction de mes propos, c'est Irina Dmitrychin. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous pour l'interprétation aujourd'hui. Bonjour Ketini Viabandi.
Bonjour.
Votre recueil « Je suis un songe de liberté » apparaît, lui, aux éditions Bruno Doucet. Bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir. Ici, dans le Book Club, on commence toujours les émissions par ce qu'on appelle un questionnaire lecture. On entend faire le portrait de nos invités en se demandant si ils ou elles ont rencontré des livres sur leur parcours et à quel moment, si oui ou non d'ailleurs. Vous êtes née en Belgique, vous êtes revenue vivre ensuite au Burundi avec votre famille, puis vous avez dû quitter ce pays. Votre vie est marquée par le mouvement Ketini Viabandi, quelle est la place dans tous ces mouvements pour les livres?
Le livre a toujours fait une grande partie importante de ma vie. Il paraît, mes parents me racontent que toute petite, lorsqu'ils allaient à l'épicerie, je me perdais dans le rayon livre, qu'ils me laissaient là.
Et, en Belgique, du coup?
En Belgique, ouais. Oui, tout à fait. Et que, voilà, ils m'ont. D'ailleurs, une fois, ils m'ont vraiment perdu. Ils ont dû me retrouver des heures plus tard. Donc, le livre a toujours fait partie de ma vie. Je crois que mon premier coup de foudre avec la littérature, c'était Mon bel oranger, que j'ai lu. J'ai dû avoir peut-être 9 ans. Et que je lisais perché dans notre guavier, dans notre jardin.
Désormais rentrée
au Burundi. Voilà. Oui, parce que je suis rentrée au Burundi à 5 ans. Et que j'étais une enfant calme, avec une vie intérieure foisonnante. Et donc la littérature était ce lieu pour moi d'évasion, de voyage, mais aussi l'endroit où je me sentais vraiment chez moi. Et alors, ça a toujours été mon vrai chez moi.
Et justement, chez vous, dans la maison que vous retrouvez au Burundi, en tout cas dans la maison où vous habitez à partir de l'âge de 5 ans, avant de nouveau devoir quitter le pays, c'est une maison où on lit, c'est une maison où il y a des livres?
C'est une maison où il y a quelques livres. Il faut dire qu'on ne lit pas énormément. L'accès aux livres n'est pas du tout facile au Burundi. Mais j'avais un oncle qui était dramaturge et qui écrivait des pièces de théâtre. Et donc, je le faisais répéter, ces pièces de théâtre. Et voilà, on se mettait sur la terrasse. Il se mettait au bout de la terrasse et on répétait ensemble. Et j'assistais à ses répétitions. Donc, j'étais vraiment plongée dans ce monde-là avec lui. Et puis, à la maison, on avait quelques livres. On avait surtout tout l'univers, qui était cette énorme encyclopédie. et que je dévorais. Et puis on avait un petit Larousse. Et à chaque fois que j'étais punie, que je devais faire la sieste les après-midi dans ma chambre, eh bien j'étais seule avec le Larousse et j'étais la plus heureuse petite fille du monde.
Qu'est-ce que vous trouviez dans un dictionnaire qui vous rendait si contente, Quétine Vielandi ?
Découvrir les mots, des nouveaux mots, leur sens, la mélodie. C'est quelque chose, c'est une... Même jusqu'à aujourd'hui, vous me donnez un dictionnaire, je suis très heureuse de découvrir de nouveaux mots, de mettre des mots sur des choses qu'on a du mal à définir autrement. Pour moi, la langue, c'est vraiment la traduction entre le monde, le monde lui-même et puis le monde des mots. Donc ce rapport à parvenir à traduire ce qu'on ressent avec des mots les plus justes, est quelque chose qui m'a toujours interpellée et beaucoup touchée.
Et vous êtes toujours aujourd'hui dans cette recherche, vous êtes toujours assez bien lorsque... quand vous ouvrez un dictionnaire, vous êtes toujours dans un territoire amical.
Absolument, absolument. Le dictionnaire lui-même est incomplet, je le trouve toujours incomplet. Les langues elles-mêmes sont incomplètes, mais j'ai ce plaisir absolument à savourer, à découvrir d'autres mots, et dans d'autres langues également, puisque maintenant je parle aussi d'autres langues.
Vous parlez quelle langue, justement, j'allais dire, parce que dans cette vie où il y a énormément de mouvements, dont beaucoup de mouvements contraints, on y reviendra, Quétine Vielandi, est-ce que ça s'est accompagné d'un déplacement dans plein de langues différentes ?
Oui, je parle déjà le kirundi, qui est ma langue natale, que j'ai appris du coup quand je suis rentrée au Burundi. Ma toute première langue était le français.
En Belgique, quand vous arrivez au langage, vous parlez français ?
Je parle français, oui. Et du coup, maintenant, lorsque je suis en colère, que je gronde mes filles, je les gronde en français. mais le kirundi est la langue que j'apprends à partir de 5 ans et qui est ma langue vraiment. Et plus tard, au niveau de l'adolescence, j'apprendrai à l'école, j'apprendrai l'anglais, l'espagnol. Et maintenant, je parle l'anglais absolument couramment. J'ai fait un passage au Kenya également de plusieurs années, donc je parle un petit peu le swahili. Et je suis toujours aussi en train d'écouter dans une autre langue ce qui ne peut pas être dit dans une autre. Et il y a des mots en kirundi qui sont intraduisibles en français.
Vous pensez à du coup, c'est difficile, mais vous pensez à des termes en particulier, par exemple ?
Oui, je peux penser
quelque chose qui ne se traduirait pas exactement du kirundi vers le français.
Oui. Je pense à Inhore, par exemple, qui est un juste, mais qui n'est pas juste simplement une personne juste. C'est quelqu'un de droit, mais en même temps, il y a beaucoup de compassion dans cela. Je ne trouve pas le mot exact.
Il y a un mot plus complet en kirundi. En kirundi, pour atteindre cette justesse de l'âme qu'on ne trouverait pas dans un mot seul en français, en tout cas.
Exactement. Akabongé. Il y a plusieurs mots comme ça sur, par exemple, le désir, la langueur, l'attente, qu'on ne trouve pas en français.
Et ça, c'est Akabongé?
Oui, Akabongé, oui.
Et est-ce que vous trouvez, par exemple, est-ce que vous trouvez en swahili ou en anglais ou en français des choses que vous ne savez pas dire en kirundi, à l'inverse ?
Le swahili, pas vraiment. Je ne connais pas assez profondément pour le dire. Mais il y a par exemple mélancolie, que je ne trouve pas exactement en kirundi.
Et qui du coup est un mot précieux en français.
Et que j'aime, un mot que j'adore, j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs un des premiers mots que j'ai adoré petite, qui m'a tout de suite touchée. Et en anglais aussi, ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit, mais il y a des mots en anglais que je n'arrive pas à retrouver en français, ni en kirundi. Et en fait, c'est tout ce qu'une culture peut porter et ce qui lui manque aussi. C'est pour ça que la beauté de deux cultures qui se rencontrent, c'est cette complémentarité. Et donc, je me trouve très riche de pouvoir...
Beauté d'autant plus augmentée que pour vous, ce ne sont pas que deux cultures qui se rencontrent, mais encore plus de cultures qui se rencontrent, on en reparlera. Aujourd'hui, quelle est la place de la lecture dans votre vie ?
Elle a toujours une grande place, autant la lecture de la poésie, de la fiction, que évidemment que des récits politiques, personnels, etc. La lecture me nourrit, elle m'a toujours nourrie. Je pense que la lecture m'étend, elle me grandit. Et j'essaye de lui trouver du temps. Maintenant, à côté de ça, j'ai une pile de livres à côté de mon lit que je n'ai pas encore lu. Donc, je suis à la fois dans la lecture et aussi dans l'anticipation de la lecture, dans le désir de lire autre chose. Oui.
Qu'est-ce qu'il en est pour vous, Yarina Tchornouhouz ? Vous avez étudié la littérature, la philologie à l'Académie Molia de Kiev. Et avant cela, est-ce que vous avez, vous aussi, grandi dans une maison où le dictionnaire était un refuge et où vous aviez un appétit de petite fille pour les mots?
Oui, j'ai grandi parmi les livres. Mon grand-père était un célèbre écrivain, humoriste ukrainien à l'époque soviétique. Et mon père également était poète. Mes parents sont également musiciens. Ma maman et mon papa jouent de l'instrument ukrainien populaire qui s'appelle bandoura. Et donc, ils exécutent les chansons populaires ukrainiennes. Et pourquoi les livres m'entouraient depuis mon enfance, c'était une sorte de façon de retrouver le calme. Mon grand-père aimait beaucoup les classiques européens. Et j'ai lu très jeune Jules Verne et toute la littérature d'aventure. Et la littérature française en Ukraine est très populaire. En particulier dans cette génération, mais ça a continué. J'ai commencé à écrire probablement à 7 ans des poèmes. Je pense que c'était une sorte de reprise des chansons que mes parents jouaient à la bandoura, donc c'est le chant national ukrainien. Et j'étais également une très grande amatrice de littérature ukrainienne qui a joué un grand rôle dans ma vie. Tout le monde ne sait pas, mais l'identité ukrainienne moderne a été construite autour de la littérature. La littérature a aidé de nombreuses générations d'Ukrainiens à survivre ces années donc de colonisation de l'Empire russe. Ce que les hommes politiques ne pouvaient pas faire, c'était les poètes, les écrivains qui s'en chargeaient en préservant les choses importantes pour les générations à venir.
Est-ce que vous pouvez préciser cette idée-là, Yarina Tchornouhouz? Parfois, on peut même lire en effet que l'identité ukrainienne moderne n'a pas été bâtie par des hommes politiques ou par des lois, mais par des poètes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand vous dites ça? Ça veut dire qu'il y avait dans la lecture des poèmes quelque chose qui bâtissait une nation ?
En effet, si on prend l'histoire de notre littérature, après au XVIIe siècle, lorsque l'Ukraine était déjà dominée par la Russie et que la Russie a commencé à détruire les livres et tout ce qui concerne l'Ukraine, il y a eu des écrivains, comme par exemple Kotlarevski, qui a transposé en ukrainien le poème de Virgile, l'Énéide. C'était une version humoristique en suivant l'Énéide de Virgile. Par exemple, plus tard, au XIXe siècle, Taras Shevchenko, notre grand poète et probablement aujourd'hui, qui est toujours très important, notre prix littéraire principal porte ce nom. Il était à la fois artiste, donc issu du peuple, donc il était serf, et il est devenu un artiste célèbre dans toute la Russie, mais il a refusé de créer l'art impérial. Il a commencé à écrire en ukrainien, il a écrit et décrit les aspirations de notre peuple vers la liberté. De même, au XXe siècle, nous avons une génération d'avant-gardistes, de modernistes, parmi lesquels on peut citer Malevitch, le peintre. Nous avons eu également une avant-garde importante dans la littérature. Et je lisais tout cela étant encore très jeune. J'absorbais tous ces sens. Malheureusement, beaucoup d'artistes ukrainiens n'ont pas pu vieillir. Ils ont été, d'une manière ou d'une autre, exécutés, anéantis. Mais ils ont eu le temps de nous transmettre pourquoi le combat est important et pourquoi il est important non seulement de se battre politiquement, mais aussi d'écrire de manière complexe et philosophique en notre langue, écrire des sens humanistes et généraux.
Mais vous êtes capable, comme ça, en quelques minutes, de retracer l'importance qu'a eu la poésie pour la construction de l'identité ukrainienne, parce que vous avez grandi dans une famille, on va dire, d'intellectuels, parce que vous-même, vous avez étudié la littérature ou la philosophie, ou vous diriez que toutes les personnes de votre génération, donc vous êtes assez jeune, vous êtes né en 1995, ont cette conscience de l'importance de la littérature et de la poésie en Ukraine.
Les Ukrainiens sont une nation qui aime beaucoup lire.
Si
aujourd'hui vous pouviez vous retrouver dans nos villes, Kyiv, Lviv, Odessa, Zaporizhia, qui sont aujourd'hui près de la ligne du front, vous verrez que malgré la guerre, il y a des lectures littéraires dans les abris et des présentations de livres sur tous les sujets. Autrement dit, la littérature et l'art représentent une part importante de notre identité et nous avons aujourd'hui une grande partie de la génération actuelle qui est au front. Ce sont des artistes qui étaient déjà artistes avant et qui sont engagés dans l'armée, qui continuent à créer étant déjà dans les tranchées. Et pour nous, créer la poésie dans le temps actuel, c'est une façon de survivre pour notre nation. C'est un moyen de garder notre humanité et de préserver le lien avec le monde pacifique.
Je le disais tout à l'heure, et on parlera de votre recueil de poèmes, c'est ainsi que nous demeurons libres, paru dans la traduction française au Tripode, mais qui a été primé en Ukraine de ce grand prix littéraire que vous évoquiez, Yarina Chornouz, qui a été composé, et c'est pas une manière de parler, depuis les tranchées ukrainiennes, on y viendra. Quelle place il y a pour la lecture? Je vous adresse la même question qu'à tous nos invités au Book Club. Quelle place il reste pour la lecture dans le temps, dans le corps, dans l'esprit? Quand on vit dans un pays en guerre.
La lecture occupe une place extrêmement importante, c'est ce qui me permet de survivre. Et c'est la seule chose qui donne un véritable plaisir, une jouissance de la vie. Cependant, j'ai eu des périodes, en 2022 par exemple, lorsque la guerre à grande échelle a commencé, et dans mon unité, un tiers de nos combattants ont été tués.
De l'armée, hein.
De mon unité militaire, donc un tiers a été tué au tout début de la guerre. Lorsque j'aidais les autres et je voyais la mort, malheureusement, on ne parvient pas à toutes les guerres, on ne parvient pas à sauver tout le monde et c'est très douloureux d'emporter les corps.
Коли ти в такому виживаєш, після
et
цього
у мене
трошки
cela,
зникло,
après cela,
зникла можливість читати.
Perdu
тобто
un
я
peu
не
la capacité de lire.
Протягом кількох
je місяців. Ne parvenais pas à lire pendant plusieurs mois.
Тому що мені, ну, все було дуже порожнім.
Car tout me semblait vide. Il me semblait que plus jamais je ne pourrais ni lire ni écrire la poésie, ni lire les livres que j'aime. Mais plus tard, J'ai pris un auteur qui m'a permis de me reprendre et qui m'a fait revenir le plaisir de lecture, et c'était Milan Kundera. Son style philosophique érotique m'a progressivement restauré en moi cet amour de lecture. Et comme pour Ketty, donc, même au front, il y a beaucoup de livres. Donc des tas de livres, et parfois je me sens comme une militaire qui n'est pas très pratique parce que je traîne toujours beaucoup de livres avec moi. Et dans certains villages du front où il y avait des bibliothèques abandonnées, je prenais des livres qui étaient importants pour moi, qui étaient traduits en ukrainien, et je les portais avec moi dans la voiture.
Aujourd'hui,
quand j'ai du temps libre, j'apprends le français, car la langue permet de faire abstraction de la routine militaire, et j'essaie de lire Simone Weil.
Et
Frédéric m'a offert Blaise Cendrars, donc j'essaie de les lire.
Pourquoi est-ce que quelque chose dans la langue de Milan Kundera vous a rebranché avec le plaisir de lire, dont vous dites que c'est la seule manière pendant la guerre d'atteindre une jouissance de la vie? Pourquoi cette langue-là en particulier?
J'aime beaucoup cette fusion entre l'érotisme, l'ironie
et
la philosophie. J'aime beaucoup quand dans la prose, les personnages sont des personnifications, en quelque sorte, des idées philosophiques. Et en même temps, ils sont présentés de manière aussi incarnée, aussi vivante.
Cela
procure un plaisir. De plus, Kundera a eu beaucoup de textes contre les dictatures, avait une écriture qui portait des valeurs. C'était aussi un homme qui comprenait parfaitement ce que fait la société dictatoriale avec l'artiste, comment elle le détruit. Et c'est quelque chose qui a trouvé un écho en moi, donc cet espace de non-liberté. Donc, en plus, c'est un auteur postmoderniste, donc toutes les choses sont sur le même plan, et c'est ce qu'on ressent quand on est au front, lorsque tout est égalisé.
Est-ce qu'il y a des moments, Ketty Nivia Bandy, vous qui êtes aussi dans une autre histoire, prise dans une autre histoire avec le Burundi, des moments où la lecture n'a plus eu de place ou au contraire elle est toujours restée un cœur battant, pour reprendre la très belle expression de Yarina Tchournouz, l'accessibilité, la seule, à une certaine jouissance de la vie?
Non, pour moi, la lecture est restée présente. Elle est même devenue vraiment une ligne de vie, surtout en exil. Et j'ai beaucoup lu les auteurs qui avaient justement été exilés. La littérature sur l'exil m'a beaucoup, beaucoup nourrie. Par contre, ce qui a été plus difficile, c'était l'écriture. Je ressens très bien ce sentiment de vide, de l'impuissance de l'écriture.
Une vacuité presque.
Une vacuité, exactement. Et on se sent dans un espèce de terrain où tout semble impossible et vain. Et donc j'ai eu du mal à écrire et ça fait partie de ce que je traite justement dans mon recueil. C'est cette bataille avec le langage, le silence et qui, lui, est une langue, à mon avis, et sa traduction. Mais la lecture a continué à m'accompagner. Édouard Saïd, Mahmoud Darwish, mais aussi la littérature afro-américaine m'a aussi beaucoup, beaucoup accompagnée. Baldwin, Toni Morrison sont des auteurs qui m'ont beaucoup, beaucoup porté.
Finalement, le titre que je vois imprimé sur ce livre d'un jaune si vif, Un songe de liberté, pourrait être presque une définition de la lecture, à vous entendre, à considérer la place que semble occuper le silence dans votre vie. On va parler dans un tout petit instant de vos deux recueils de poésie.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et cet après-midi dans votre Book Club, des vêtements qui souffrent de solitude, des morts au combat qui ont toujours les yeux trop clairs, une rivière qu'on tutoie parce qu'elle est devenue front de guerre, la langue des pertes, la langue de fer, mais aussi des ossatures de cire pour écrire quelques mots dessus, des pagnes en feu, des yeux écarlates et un jour suffisamment têtus pour se lever encore. Toutes ces images, toutes ces visions, on les retrouve dans vos poèmes, Ketini Viabandi et Yarina Tchornouz. Le front ukrainien n'est pas le Burundi quitté au loin et les rivières auxquelles vous vous adressez toutes les deux ne portent pas les mêmes noms. Cependant, quelque chose nous a semblé résonner suffisamment entre vos deux recueils de poèmes récemment parus pour vous rassembler autour de notre table. J'en rappelle les titres. Yarina Tchornouz, votre recueil « C'est ainsi que nous demeurons libres » apparu aux éditions du Tripode dans une traduction signée d'Ela Yevtouchenko et Frédéric Martin. Ketini Viabandi, votre recueil « Je suis un songe de liberté » apparu aux éditions Bruno Doucet. On va parler d'abord de votre recueil, Ketini Viabandi, en allant quasiment à la fin. C'est une adresse, mais peut-être que cette adresse, ce poème de la fin, nous permet de parler du recueil tout entier. On écoute un extrait.
Je ne suis pas parti, Christa. Je suis là, sous l'eau des rizières, au bord de nos espoirs fous, dans ces rides lumineuses qui creusent nos visages, vieux de songes et de révolutions. Entre ce passé qui refuse de passer et nos lendemains qui n'arrivent pas. De l'autre côté des eaux troubles, Babylone se tord, les vieux empires s'effondrent, les nouveaux poètes sont d'une fureur assassine. Mais toi et moi savons que les plus beaux poèmes ne s'écrivent pas. Je leur raconte l'histoire de nos mains tisserandes, nos filets d'or tendus sur les décombres. Oui, la beauté éclot encore au creux des cendres. Je ne suis pas parti, Christa. Je suis là, tout près de toi, pieds nus sur les sables mouvants, les yeux salés de nos luttes, sentinelles de nouvelles aubes, les paupières lourdes. La lassitude me ronge. Mais pour toi, je résiste la nuit. Résister, n'est-ce pas veiller sur la tendresse du monde? Je ne suis pas parti, Christa. Je suis là. Je suis là.
C'est le dernier poème, juste avant l'épilogue. Il s'appelle « Aux nouvelles aubes », Ketini Viabandi, qui est la Christa à qui vous promettez de n'être pas complètement partie.
Christa Benigne Irakozem, est une femme que j'ai rencontrée en avril 2015 en préparant les plus grandes manifestations pacifiques de femmes au Burundi face à ce qui s'installait déjà comme une dictature dans mon pays. Et c'est une femme que j'ai rencontrée donc quelques jours avant. J'ai eu des échanges furtifs avec elle, mais elle m'avait tout de suite énormément touchée par sa détermination. Elle était très prête à faire ce qu'il fallait faire, à manifester dans un moment très tendu et très
donc
dangereux.
Risqué.
Très risqué, où nous risquions nos vies. Elle me semblait extrêmement courageuse. Et donc, elle a donc participé à ces manifestations-là. Et je ne l'ai plus revue, puisque j'ai quitté le Burundi quelques jours après, qu'il y a eu une répression sanglante et terrible juste après. Et j'ai appris des mois plus tard que, sur mon téléphone, comme ça, parce qu'il y avait des annonces qui défilaient chaque jour de personnes qui avaient disparu ou trouvé, dont les cadavres avaient été retrouvés. J'ai appris qu'elle avait donc été enlevée et puis violée, torturée et jetée dans une ce qui apparaît comme une fosse commune. En tout cas, elle n'a toujours pas été. Elle est retrouvée depuis. Elle est portée disparue depuis. Et donc, cette nouvelle m'a profondément bouleversée au creux de mon exil, m'a poussée à m'interroger sur le coût de l'engagement, puisque j'avais appelé ces manifestations-là. J'ai vécu un deuil terrible donc, de cette Christa, et beaucoup de ces textes lui sont dédiés. Et donc, c'est une façon pour moi de continuer le chant de résistance, de m'assurer à ce que son nom ne tombe pas dans les fosses de l'oubli. Et rien que dire son nom aujourd'hui, c'est déjà extrêmement puissant, puisque l'objectif, justement, c'est de faire oublier toutes ces personnes qui sont parties, qui ont été assassinées. Et donc, elle m'a portée. Et c'était un point de repère aussi pour moi pendant toutes ces années d'exil. C'est-à-dire que lui écrire me permettait de rester vrai et de ne pas me perdre dans cet exil qui peut détruire. L'exil non seulement nous écarte de chez nous, mais nous écarte de nous-mêmes. C'est extrêmement, c'est toute une aventure de pouvoir survivre l'exil. Et elle est restée mon point de repère.
Donc, il y a plusieurs poèmes d'ailleurs qui pourraient, sans qu'ils ne soient directement adressés à cette femme militante Christa, prendre la forme d'une adresse. Vous parlez du Burundi et de la manière dont l'exil vous en a éloigné, pareil à la manière dont vous avez été forcé de vous éloigner de vous-même. Mais vous pouvez vous adresser à ce pays, vous pouvez aussi vous adresser à une rivière, vous pouvez presque vous adresser au silence, vous adresser à l'acte même d'écrire. Est-ce qu'il y a pour vous quelque chose de cet ordre-là dans le fait d'écrire? C'est une adresse, quelque chose qu'on envoie vers, alors je ne sais pas s'il y a un quelqu'un ou un quelque chose, mais en tout cas ce geste-là, ça vous parle?
Oui, ça me parle, et particulièrement parce que voilà, j'ai vécu dans une situation où on est poussé au silence. On est poussé à ne pas s'adresser à l'autre ou ne plus vouloir s'adresser à l'autre. On a parlé tout à l'heure de ce vide que l'on ressent.
Qui rend tout vain.
Absolument, qui rend tout à fait vain. Et donc, la poésie devient, du coup, et la langue, la littérature devient le lieu à partir duquel on peut reconquérir non seulement sa voix, mais la voix des autres également. Donc c'est un véritable champ de bataille. Ça l'a été pour moi. C'est un véritable front. Donc j'ai vécu le vrai front, bien sûr, comme on dit, mais la langue le reste également. Et c'est un lieu à partir duquel donc je peux parler et toucher à tout, à la fois la nature, que les personnes dont j'ai été séparée, comme Christa ou mon pays. C'est une liberté qui est quand même extraordinaire, ce terrain sur lequel on peut se déployer et qui nourrit, et qui re-remplit, puisque cet exercice, à la fin, on ne donne pas seulement, on reçoit énormément dans cette traversée-là.
Du poème, vous voulez dire ?
Du poème, tout à fait. Il restaure quelque chose, et je ne veux pas créer des illusions, ce qui est perdu est perdu. On ne retrouve pas ce qu'on a perdu. On ne retrouve pas. Voilà. La perte est absolument vraie. J'en parle. Mais il y a quelque chose d'autre qui est restauré par la littérature.
Par exemple, lorsque dans vos poèmes, vous dites qu'il y a quelque chose qui peut résister à la brûlure, à l'effacement, à la manière de vouloir éradiquer des êtres, et qu'on évoquait tout à l'heure le sentiment que parfois l'écriture, la littérature peuvent paraître vaines, vous répondez par certains poèmes que non, c'est possible, qu'en tout cas quelques mots couchés sur le papier, des noms marqués sur des papiers, ça peut aller contre des politiques autoritaires, dictatoriales, d'effacement des êtres et d'effacement de la résistance.
Absolument. Et même ce qu'on est en train de faire là, déjà, c'est une véritable résistance, puisque pour moi, je suis, mon pays est toujours dirigé plus ou moins par la même classe politique qu'il était en 2015, et qui a tout intérêt à ce que cette histoire-là soit effacée. Donc, il y a un véritable Et c'est l'histoire de mon pays en général, où la mémoire a été constamment effacée. Et donc, écrire devient un geste non seulement artistique, mais c'est aussi un geste politique, un geste fort. Et pouvoir remettre sur le papier toutes ces vies qui ont été délibérément effacées, brûlées, est aussi une restitution. C'est une restitution extrêmement puissante et extrêmement importante. Et oui, ce que je dis à un moment, vous ne brûlerez pas nos âmes. On ne peut pas brûler un songe. On peut brûler un bâtiment, on peut tuer des personnes, mais on ne peut pas tuer un rêve.
Les éditions Bruno Doucet racontent comment ils sont éblouis en 2014 lorsqu'ils découvrent votre écriture, Kétine Viabandi. Et ensuite, le temps qui passe, une dizaine d'années avant de vous retrouver avec ce recueil « Je suis un songe de liberté », ils s'interrogent que lui est-il arrivé? Alors évidemment, on ne résume pas 10 ans de vie et d'exil en quelques minutes, mais est-ce que ces poèmes, c'est une manière de dire justement ce qui s'est passé dans cet écart de temps au moment où vous êtes obligé de fuir le Burundi pour vous protéger et protéger votre liberté d'expression et le moment où ce recueil paraît? Est-ce qu'il y a quelque chose du temps qui est contenu dans ce petit livre jaune?
Oui. Absolument. Il est important pour moi de tracer, de laisser cette trace poétique sur ces 10 dernières années, cette traversée de l'exil. Les textes racontent non seulement les déchirements ou ce qui s'est passé encore au Burundi, comme pour Christa, mais aussi comment on traverse l'exil, hein, et le silence auquel l'exil peut nous pousser. Comment on se bat contre cette envie du silence et comment on en renaît, mais aussi d'autres choses comme l'amour, comme
le désir,
comme la fiction, le désir exactement qui répare et qui. Donc oui, c'est un petit aperçu sur ces dernières 10 années de ma vie assez intense, qui je pense auront une résonance beaucoup plus large.
Au-delà de la seule expérience qui est la vôtre, de toute façon, pour les deux, comment dire, recueils que nous évoquons aujourd'hui, il y a quelque chose qui cherche à dépasser, bien évidemment, la seule histoire du Burundi, de l'exil, et la seule histoire, même si à chaque fois c'est très ancré, du front ukrainien. On écoute la voix d'Alexandra. Elle vous a lu, Kétine Viabandi, elle vous adresse une question qui pourra tout à fait être adressée aussi à Yarina Chornogruz.
Bonjour le Book Club. Bonjour Kétine Viabandi. J'ai lu « Je suis un songe de liberté » et je dois dire que je l'ai trouvé absolument bouleversant. Je suis une passionnée de poésie, j'en lis énormément et votre écriture m'a tout simplement émerveillée. Vous avez cette merveilleuse capacité d'aborder des sujets forts, difficiles, douloureux, mais avec énormément de beauté, de sensibilité, de lumière. Et à la fin de votre recueil, vous écrivez une phrase qui m'a marquée. Vous dites « garder le cœur tendre, cueillir la beauté du monde malgré sa cruauté et le vrai combat ». Au-delà de cette philosophie de vie, est-ce que ce ne serait pas ça, au fond, la définition de la poésie ? Merci beaucoup pour votre réponse.
Merci beaucoup à vous, Alexandra. En effet, on pourrait presque faire un relevé du champ sémantique de la lumière, de l'or, de ce qui luit, de ce qui éclaire dans votre recueil de poèmes, Kétine Viabandi. Et on lisait tout à l'heure l'idée des nouvelles aubes. Il y a aussi l'idée de la renaissance par la lumière. Est-ce que vous pourriez en faire une demande, Alexandra, une définition de l'écriture poétique ?
Je pense qu'elle l'a fait. Hein, absolument, la poésie, qu'est-ce que la poésie, sinon justement cette capacité à non seulement dire, mais transformer le monde et le présent autour de nous. C'est cueillir le plus beau du monde et arriver à le retransmettre, un condensé de beauté et de vérité. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec elle.
D'ailleurs, le livre est jaune. Il y a quelque chose qui vibre aussi de cette lumière-là. Yarina Chornouz, la lumière, elle arrive par des évocations quasiment animistes, dans la manière dont vous parlez, des forêts d'Ukraine, de la manière dont une eau de rivière, même si elle est aujourd'hui le front de la guerre, peut faire scintiller quelque chose du soleil. Vous réussissez à vous rebrancher avec comme les anciennes terres de votre pays. Est-ce que ça aussi, est-ce que la recherche de ce qui luit encore, c'est pour vous une des possibilités du travail poétique?
Lorsqu'on combat l'occupation,
для тебе земля починає грати абсолютно особливу роль.
Devient donc un objet acquiert un rôle particulier.
У моїй збірці дуже багато
про втрати. Dans mon recueil, il y a beaucoup de pertes.
Втрати людей, яких я знала особисто,
personnes que je connaissais personnellement, mes camarades de
їхніх рідних, з якими ми
далі proches, avec lesquels je reste en contact.
Також про людей, які
mais aussi des gens
які лишилися в окупованих
містах. Qui sont restés en terre occupée, dans les villes occupées.
Для мене природа,
la nature, la lumière, les rivières,
ці маленькі села, які
petits villages,
мало хто, ніхто б ніколи не побачив, я б не
personne n'aurait remarqué et moi non plus je ne les aurais pas remarqué si je n'étais pas militaire sur le terrain.
Вони часто набувають дійсно якогось аж міфологічного значення.
Ces villages prennent des contours et des sens presque mythologiques.
Ну, я скучаю за втратою їх, от майже як
je souffre de leur perte comme de l'absence des êtres vivants.
Ось, наприклад, в моїй збірці є
par exemple, dans mon recueil, il y a un poème qui s'appelle Siversky Donets, c'est le nom d'une rivière. Et c'est un dialogue, une façon de s'adresser à une rivière, ce qui peut paraître étrange. Et je le dis dans le poème, c'est peut-être étrange de s'adresser à une rivière pour une personne du XXIe siècle, mais lorsque cette rivière, pendant des années, est une ligne de front, autour de laquelle on mène des opérations, le renseignement, lorsque autour de cette rivière, tes camarades tombent ou survivent, eh bien, cette rivière devient une sorte de rivière mythique, ancienne, et a un rôle particulier. Dans notre guerre, les rivières ont une signification, un sens particulier, puisque ce sont les rivières qui permettent de préserver les territoires qui constituent ces frontières naturelles. Par exemple, la ville de Kherson, c'est une ville ukrainienne ancienne qui remonte à l'époque des colonies grecques et donc qui est à la jonction entre le Dnipro et la mer, donc le grand fleuve et la mer Noire. Aujourd'hui, nous parvenons à défendre cette ville puisqu'il y a Dnipro, le grand fleuve qui passe. Et c'est ce fleuve qui protège les gens des horreurs de l'occupation. Et j'essayais de le reproduire dans mes poèmes, préserver non seulement la mémoire des gens, mais aussi de la nature et de ces rivières.
Et c'est ce qui fait, et on l'entend dans la possibilité que vous avez en poète, mais presque en militaire, c'est assez indémêlable finalement dans ce recueil, Yarina Chornogus, ce dialogue que vous pouvez avoir avec une rivière, ou avec des arbres, ou avec la terre. Vous l'avez aussi dans une dimension quasi mystique ou quasi animiste, vous l'avez dit, vous pouvez tutoyer une rivière en tant qu'elle va devenir une protection, mais cette rivière, elle va être aussi le léthé, elle va être aussi un fleuve antique, un fleuve mythique qui devient le transport des âmes, le transport des morts. Il y a une manière comme ça de s'élever du réel, tout en ne le quittant pas, vers quelque chose de mythologique, de sacré, de très ancien, quoi. J'ai l'impression que c'est comme ça que travaille votre poésie.
En effet, c'est de cette manière que j'essaie de percevoir le monde. C'est peut-être plus simple, tout simplement. Et cette facilité aide aussi de vivre dans la réalité après la vie, au-delà de la vie. Où pratiquement tous les Ukrainiens vivent aujourd'hui, nous devons apprendre et nous apprenons tous les jours de vivre constamment avec des pertes, de savoir que la plupart d'entre nous, très certainement, ne vivraient pas jusqu'à la vieillesse.
І в такий період думки про міфологію і вічність.
Період les idées sur la mythologie, sur l'éternité sont naturelles.
On va écouter un extrait de votre livre C'est ainsi que nous demeurons libres.
Le front dévore mon cœur et ceux de mes camarades. Il dévore tous mes mots et guette d'un œil le reste de mon corps. Les vieux mythes parlent des temps où venait un géant. On choisissait chaque mois une dizaine de jeunes hommes et de jeunes filles afin d'apaiser sa faim et acheter un peu de répit pour le village. Dans la zone neutre, la terre ouvre régulièrement sa gueule pour apaiser avec nous la fin de la guerre. Nous nous sommes offerts à la guerre, de nous-mêmes, pour apaiser sa faim et offrir du répit à notre pays. Nous faisons tous la queue dans une longue crevasse. Personne ne sait quand viendra son heure, et puis, pas besoin de le savoir. Mais notre ennemi n'est pas du tout un géant. Il est insignifiant et gagne du terrain grâce à une multitude d'unités infimes. Rien d'étonnant que le mal soit décrit dans les vieux mythes comme la peste, comme une multitude d'unités infimes, comme les locustes qui ont dévoré toute la récolte, comme les rats qui ne sont dangereux qu'en grand nombre et qui seuls ne valent rien. C'est ce que tu es, Russie, une multitude d'unités infimes. Et nous, nous partageons tout avec notre terre. Les couleurs de nos vêtements, la peau, le sang et le chemin de la vie. Nous ressemblons un peu aux esprits des forêts et des champs. Souvent, on ne les voit qu'une seule fois dans sa vie. Cela fait presque 2 ans que nous n'avons rien vu d'autre que le Donbass. Quand on nous laissait entrer retrouver un autre monde, pour quelques jours, c'était encore lui devant nos yeux. Zones industrielles, terrils et carrières, fleuves frontières, où s'étend la ligne de front, habitants de la zone de combat épuisés, mines enterrées par la pluie dans la zone neutre, voitures détruites, tirs, explosions, explosions, tirs, contact, raisons de combat et uniformes, les nôtres et celles de l'ennemi en vrac. Le monde s'est réduit à ce morceau de terre que l'on défend. Et même s'il y a autre chose après cela, je crois qu'à vrai dire, nous n'en aurons plus besoin.
Je le disais, certains des poèmes regardent, tentent de regarder vers un après de la guerre, Yarina Chornohus, mais celui-ci, que l'on vient d'entendre, se termine par l'idée que s'il y a quelque chose après, nous n'en aurons plus besoin. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont liquidées dans votre recueil de poèmes, à commencer par certaines philosophies, certaines façons de penser le monde, dont vous dites qu'elles ne sont, plus utilisables, vous qui avez étudié la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire de qu'il y a des choses que vous voulez perdre, quoi, enfin, dont vous voulez presque vous débarrasser.
La disparition des personnes avec lesquelles on a longtemps vécu, combattu, qui sont devenus des frères et des sœurs, puisque l'armée de défense vous rend tous faire partie d'une même famille. Donc la perte signifie une perte définitive de quelque chose.
Tout
comme a dit Katie en parlant de Christa. Je comprends parfaitement ce que veut dire ce poids de perte. La langue aide à traverser, à préserver la mémoire de ces gens, car lorsqu'on voit la mort, après cela vient le vide et le silence qui ne peut être rempli. Tu comprends que c'est le temps de l'oubli qui arrive. La poésie, le livre, permet de préserver la trace de ces personnes, et c'est une sorte d'éclat dans ce vide, cette étincelle qui permet de dire qu'il reste encore quelque chose.
Et en même temps, vous écrivez dès le deuxième poème qui s'appelle Parenthèse, toutes les philosophies sont remises en question devant les portes d'un camp de filtration russe. Il y a quelque chose, comme s'il y avait quelque chose dans ce qui vous a formé, y compris intellectuellement, qui ne résistait pas à l'épreuve de la guerre, qui ne résistait pas à l'expérience de la guerre.
Для мене, якщо говорити ось про
pour moi, si on devait parler des choses philosophiques,
простір неволі, простір
l'espace de dictature, de manque de liberté contre laquelle nous nous battons et nous nous défendons, c'est le culte de la mort et de la peur. Alors que le monde libre dans lequel nous voulons vivre est le monde de l'amour, le culte de l'amour et de la confiance.
Et
dans ma langue, j'essaie de préserver cet espace, car l'expérience militaire nous détruit. Réduit à l'état de l'homme primitif. Et c'est justement le livre est une sorte de pont entre l'homme primaire et la civilisation dans ce processus où nous nous trouvons constamment.
Oui, là aussi, le titre est éloquent. C'est ainsi que nous demeurons libres, presque en lisant et en écrivant. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et un peu d'enfance à cette heure-ci dans le Book Club. Chaque mardi, c'est l'heure de vous retrouver, Mathilde Wagmann. Vous venez chaque semaine nous donner des nouvelles de la littérature pour la jeunesse. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous inaugurez une série consacrée à l'inépuisable imaginaire des contes de fées.
Oui, on assiste depuis quelques années à un vrai renouveau dans le domaine des contes de fées. Bien des auteurs contemporains s'emparant de cet imaginaire pour nourrir des histoires d'aujourd'hui, jouant avec les trames originales pour les inscrire dans une forme de modernité. Cette rentrée est riche de ce point de vue. Paraîtra dans 15 jours la version de Hansel et Gretel que nous proposent, excusez du peu, Stephen King et Maurice Sendak, dont je vous reparlerai pour sûr. Mais pour inaugurer cette série, je vous parle aujourd'hui d'un album qui joue avec cet imaginaire sur le terrain graphique et s'adresse aux enfants dès le plus jeune âge. Il s'appelle « Contes en valise » et signé Émilie Chazeran pour les textes et Emmanuel Houdard pour les dessins et vient de paraître aux éditions Thierry Magnier.
« Contes en valise »,« Contes en valise », je fais la liaison comme vous, c'est intriguant comme titre. C'est quoi cette histoire de valise ?
Cet album est ce qu'on appelle un livre-jeu. À son ouverture, un narrateur s'adresse à nous. On connaît certainement, nous dit-il, les princes, les princesses, les ogres et les nains. On se souvient sans doute des abracadabras, des tirs la chevillette et la Bobinette Chéra. Mais savons-nous que les personnages de contes se donnent rendez-vous chaque année ? Ils prennent le train et passent une semaine ensemble, près d'un lac, au milieu des sapins. Un peu comme comme pour une colonie de vacances, ils font des barbecues, du karaoké, du tennis de table et du pédalo. Hélas, cette fois, les vacances ont très mal commencé car les valises se sont mélangées dans le wagon, elles se sont ouvertes et ont perdu leurs étiquettes, si bien qu'il est impossible de savoir laquelle appartient à qui. Le narrateur nous propose donc de l'aider à retrouver le propriétaire de chacune d'elles. Ainsi commence le jeu au travers d'une suite de double pages nous présentant chacune une collection d'objets échappés de ces valises, charge à nous d'identifier à qui ils appartiennent. Sur la première page, une cape rouge, un petit panier, un pot de beurre et un piège à loup nous met facilement sur la piste du petit chaperon rouge, dont la valise est représentée page suivante, toute rouge, deux jolies branches de sapin en son centre, une anse en osier et deux grosses pattes de loup en guise de roulette. Page suivante, des ciseaux, une bague, un gilet d'homme et trois grandes clés nous permettent d'identifier Barbe Bleue, dont la valise a la particularité d'être poilue et dotée d'un cadenas à serrure d'où s'échappe une énorme goutte de sang. Et ainsi de suite, 17 contes et autant de valises en tout, de Cendrillon à la petite sirène, des mille et une nuits à Jack et le haricot magique, en passant par le joueur de flûte de Hamelin ou encore Pinocchio. À la fin, on découvre que celui qui nous a invités à jouer n'était autre que le loup, personnage commun à plusieurs de ces contes et qui, lui, voyage léger parce qu'il a tout sur lui, ses yeux perçants, sa fourrure épaisse et ses bonnes dents.
Qu'est-ce qui fait la saveur du livre à votre sens, Mathilde ?
D'abord, le fait que l'on joue vraiment. Si l'identité de certains propriétaires n'est pas difficile à trouver, d'autres nécessitent un temps d'arrêt, d'autant que dans chaque collection se glisse aussi un intrus, un objet issu d'une autre valise que l'on doit aussi repérer. Mais le plaisir tient surtout au dessin d'Emmanuel Houdard, autrice d'une vingtaine d'albums pour enfants et dont l'univers pictural est très singulier, quelque part entre Archimboldo, Kitty Crowther, Nicole Clavelou ou les peintres surréalistes. Un univers où l'on croise des coléoptères, des têtes de mort, des oiseaux, du feu, des images à la fois appétissantes et subtiles, subtilement inquiétante, où se côtoient douceur et sauvagerie, mignon et grotesque, blessure et sensualité, le tout dans une gamme de couleurs vives agencées avec une harmonie étonnante. Si l'album renvoie dans sa forme même à l'imagier, il évoque aussi les cabinets de curiosité de la Renaissance, d'autant que le caractère inanimé des objets, présenté un peu comme des papillons sur une planche d'entomologiste, donne au tout une forme d'inquiétante étrangeté. Il y a beaucoup d'humour aussi dans la manière d'ancrer cet imaginaire dans le contemporain. On trouve parmi les effets de réponse une bouteille de shampoing, un livre de Le Corbusier dans la valise des trois petits cochons et des boules quies dans celle de la princesse au petit pois. Enfin, ces dessins font une large place à la cruauté des contes, voire l'aiguille sanguinolente à laquelle se pique la belle au bois dormant, le cœur de biche dessiné avec une précision anatomique dans les affaires de Blanche-Neige, ou encore l'énorme fémur humain échappé de la valise de Hansel et Gretel. Sur son site internet, Emmanuel Houdard rédige sa biographie en ces termes. Il est arrivé un tas de trucs épouvantables et merveilleux dans ma vie, comme dans celle de tout le monde, et c'est ça que je dessine, du merveilleux et de l'épouvantable. Fin de citation. Du merveilleux et de l'épouvantable, c'est la coexistence qui fait le délice des contes de fées et la raison pour laquelle, sans doute, cette rencontre produit un si beau résultat.
C'est génial, ça donne trop envie de jouer. Merci beaucoup, Mathilde Wagman. En plus, je me dis, quand on a découvert le conte dont il est question avec la valise, on peut s'amuser à le raconter à partir de
exactement
dessinés. On peut continuer de jouer
et
à
on peut aller relire les contes de Perrault, de Grimm et autres.
On rappelle le titre ?
Ça s'appelle « Contes en valise » d'Émilie Chazeran et Emmanuel Houdard et ça a paru aux éditions Thierry Magnier.
Merci beaucoup. Lecture jeunesse pour vous réécouter sur franceculture.fr. Et nous sommes joueuses et joueurs dans le book club parce qu'on vous propose de chercher de la musique dans les livres. L'idée du grand jeu des pages musicales, c'est à chaque fois que vous rencontrez l'évocation d'un air musical dans un livre que vous lisez, peu importe le livre, ça peut être des recueils de poèmes comme celle dont nous avons parlé aujourd'hui, vous nous envoyez ou bien un mail via lebookclub@radiofrance.com ou bien un message via le compte Instagram du book club. Aujourd'hui, c'est Claire qui nous a envoyé un mail. Elle a choisi un extrait de Ainsi petit oiseau de Marie Pavlenko, sorti en 2019 chez Flammarion. Elle se souvient de l'air, doux, effervescent. Le soleil couchant dissimulé derrière une rangée de vieux peupliers dont les feuilles vibrillonnaient dans la brise tiède. La lumière d'or. L'atmosphère criait la vie, sa force. Le printemps flamboyait, entaché de nuées d'insectes. Les bourdons vrombissaient, survolaient les champs de blé vert pour aller butiner et faire ce que fait un bourdon au mois de mai. Un de ces moments de grâce où chaque particule de l'univers donne l'impression de s'être passé le mot et d'être à sa place. Il suffit de regarder, se saouler de beauté. Au volant, sa mère lui a demandé si elle avait des nouvelles de Thomas. Sa question a failli dissiper la magie. Elle a dit non, et sa mère n'a pas insisté. Elle n'allait pas gâcher ce joli week-end prolongé. Nina Simone et sa voix sensuelle s'échappaient de la radio. Love me or leave me. Son piano débobinait une impro sautillante en totale symbiose avec le panorama. Elle se souvient avoir souri.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey.
Merci infiniment Yarina Chornouz d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre recueil, c'est Ainsi que nous demeurons libres. Il a paru aux éditions du Tripode dans une traduction signée Della Yevtushenko et Frédéric Martin. Et merci beaucoup à vous Irina Dmitrychin d'avoir traduit en direct les propos d'Irina. Merci beaucoup Ketini Viamondi. Votre recueil Je suis un songe de liberté a paru aux éditions Bruno Doucet. C'était particulièrement émouvant de vous écouter l'une et l'autre.